RMC,
l'After Rugby.
Christophe Cessieux.
L'After Rugby en direct du Stade de France. Si vous êtes évidemment fan de foot, sachez que vous pouvez déjà télécharger l'After Foot. Vous ne serez pas privé de ballon rond, mais ce soir évidemment c'est la dernière de cette Coupe du Monde avec la victoire donc, de l'Afrique du Sud qui s'impose en finale face à la Nouvelle-Zélande, qui s'impose avec une toute petite marge d'avance comme en demi-finale, comme en quart de finale, et qui s'impose d'un point seulement, 12 à 11 face à la Nouvelle-Zélande. On va évidemment débriefer cette finale avec Denis et Wilfried qui sont toujours à mes côtés, et avec Yann Delegue et Jean-Claude Skrela qui eux se trouvent au studio RMC Place de la Concorde. C'est aussi la dernière. Ça va, ils vous ont pas viré, le studio est encore en place, messieurs, hein, rassurez-moi.
Ah, on est encore là, et il y avait quand même du monde, hein, malgré le fait que ce ne soit pas la France et tout, et qu'il pleuve aussi, il y avait quand même du monde qui était sur la place. C'est bien pour le rugby.
C'est bien pour le rugby.
Ça a été de beaux moments de communion avec ce public, évidemment, tout au long de ces 7 semaines de compétition. Jean-Claude, l'Afrique du Sud qui s'impose donc ici, comme en quart de finale, comme on dit, je le disais, qui s'impose d'un tout petit point. Mais oui, mais à la fin, c'est toujours l'Afrique du Sud qui gagne ces derniers temps quand même. Hein.
Oui, bien sûr, mais je pense que la stratégie qu'ils ont mis en place avec leur coach, elle a payé. Ils ont respecté cette stratégie et ils ont gagné. Ils ont surtout pris les pénalités, ils ont tapé les pénalités. Si les Blacks avaient tapé peut-être 2 ou 3 pénalités qu'ils avaient au lieu de faire des pénales touches où ils ont été contrés sur les touches, ils auraient peut-être pu gagner. Mais les Bocs ont été très efficaces dans ce qu'ils ont fait. Ils ont souffert aussi, et les deux équipes ont souffert. Elles se sont livrées à 100%. Ça a été un match où il y a eu quand même des fautes, il y a eu des cartons jaunes, un carton rouge. C'est quand même un match, je dirais, complet. C'est une finale complète avec tout ce qu'on peut trouver dans le rugby. On l'a vu aujourd'hui.
Yann, les Bocs qui s'imposent, qui ont été en supériorité numérique les trois quarts du match, qui s'imposent que d'un tout petit point, ça peut laisser beaucoup de regrets aux All Blacks. On a vu il y a quelques instants le visage de Sam Kane, le capitaine All Black qui a été expulsé de ce match et qui était vraiment désolé. Il est le capitaine et il cause presque la perte de son équipe avec ce geste finalement.
Ouais, c'est vrai, mais beaucoup d'équipes peuvent être déçues, hein, et frustrées. Les Anglais, les Français, les All Blacks maintenant. Donc effectivement, les Sud-Af à chaque fois se sont imposés par le plus petit écart. Mais voilà, s'ils sont là, c'est aussi mérité. Ce soir, ils font quand même un grand match. Alors effectivement, sur les statistiques...
Sans marquer d'essai, Yann, ce soir.
Ouais, si on regarde les statistiques, ils sont dominés sur toutes les statistiques. C'est-à-dire que c'est tout à l'avantage des All Blacks. Mais il y a une statistique plus importante, c'est quand même le score. Et là, ils sont devant.
Ah ouais, ils sont devant, Denis. Et finalement, au bout du compte, même si leurs succès sont étriqués, bah, ils ont battu tout le monde, sauf les Irlandais en poule. Mais on rappelle
très
ce jour-là que l'Ibok avait laissé échapper
soir,
un paquet de points.
Ce soir, okay. C'est encore la stratégie du coach
oui,
qui a payé. Gagné, quoi. On met deux clairs. On n'hésite pas à faire jouer Cobus Reynac et l'Ibok qui ne sont même pas remplaçants. Et on met la charnière de Claire qui a été extraordinaire avec Pollard qui a été très sobre,
très bon
qui a été très bon au pied. Ils ont gagné la bataille du jeu au pied, ils ont battu même sous les ballons en haut, ils y étaient, ils ont récupéré. Et puis dans l'intensité physique, je crois que Dutoit a fait un match extraordinaire.
Jean-Claude,
tu dois aimer, toi qui joues au même poste, tu as dû admirer ce joueur.
Il a été le roi du terrain, il a porté le ballon, il a défendu des coups presque impossibles quand il fait cette cueillère. C'est super bien joué. Bon, ça avait été un très grand joueur il y a 3 ans, il avait été le meilleur joueur du monde. Il a été blessé, malade, et il est revenu et au plus fort. Et aujourd'hui, il a énormément aidé son équipe à être champion du monde, et il mérite d'être champion du monde.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que le fait du match, c'est quand il met ce tampon dans les 22, où il perd le ballon, les Bocs perdent le ballon, il met un tampon alors qu'il y a un poids énorme.
À Jordi Barrett.
Mais il en a mis plusieurs à Jordi Barrett.
Oui,
ce
mais
soir.
Là, il a exécuté.
Il en a mis un joli, mais il n'en a pas mis qu'un. Hein. Il en a mis un voyage. Non, mais c'est un joueur, c'est un troisième ligne très complet. Il prend des balles en touche, il défend bien, il attaque bien.
Puis il a un physique de joueur. Il a un physique de deuxième ligne en plus, hein. Il est monstrueux.
Il a joué deuxième ligne.
Il a joué deuxième ligne. Il avait un frère qui était le même Gamari, qui jouait en équipe nationale, qui est plus depuis un moment. Mais moi, je reviens quand même sur ce que tu as dit, Jean-Claude. la prétention des Blacks contre les Sudaf à jouer ses pénal-touches. Moi, je ne comprends toujours pas. Alors que la culture des Blacks, c'est de tout jouer au pied, de prendre des points. De tout temps, c'est la culture. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Parce que s'ils étaient revenus au score à 3 points, je ne sais pas si ça n'a pas été la même chose.
Oui, mais quand tu as des possibilités de prendre des points, il faut les prendre. Ouais, tu joues une finale, tu dois les prendre.
Alors moi, je suis d'accord avec vous, les garçons, sauf qu'on reproche aux Français d'avoir pris les 3 points à 6 minutes de la fin
et de ne pas être allé
en touche. Donc,
pareil, je ne suis pas d'accord, il y avait 4 points d'écart.
Et puis, il y a aussi l'interrogation concernant le buteur des Blacks, qui est loin d'avoir les pourcentages de réussite de Pollard, par exemple. Le Sud-Africain, peut-être qu'ils n'avaient pas confiance totalement en leur buteur, Mounga.
Ben, ils loupent la transformation et la pénalité de 50 mètres de Jordi Barrett qui passe à côté aussi, ça fait la gagne.
Ça fait la gagne.
Exactement. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier que les Blacks ont joué à 14 à partir de la 29e minute. Au score jusqu'à la fin, c'est quand même un exploit terrible.
C'est incroyable d'avoir résisté comme ça à 14 contre 15. Ça me fait penser à ce match lors de la Coupe du Monde 2011.
Messieurs, ils ont eu deux cartons, les Pays de Galles. Oui, mais les Sudaf ont eu deux cartons. Ils ont joué 20 minutes à 14. Ils ont eu Colisi et Colby. Donc ils ont gagné à 14.
Les Sudaf ont aussi eu. Les Néo-Zélandais ont eu
un carton jaune au début du match.
Mais les Néo-Zélandais ont loupé des occasions, mais comme les Français en quart de finale, ils ont eu des moments forts. À un moment dans le match, on disait ils viennent.
Oui, mais beaucoup moins que les Français, parce que la défense sud-africaine était vraiment en place. Et souvent, on a senti les Blacks quand même puissants, souviens-toi, et ils tapaient souvent au pied parce que c'était la seule arme à jouer. Non, ils ont été quand même pris sous pression constamment. La défense des Dépoc a été énorme.
Ils ont gagné le match, surtout défensivement.
Ils ont
fermé toutes les portes qui pouvaient s'ouvrir, à part une fois où ils sont passés même avec un rebond. Les Blacks ont marqué, Boden Barrett marque en récupérant le ballon au sol. Mais ils ont été très très forts défensivement, souvent à la limite. On le voit à la télé, on le voit bien. Très souvent à la limite, mais ils n'ont pas été pris par l'arbitre. Et ils ont très très bien défendu. Ils ont gagné ce match, surtout avec la défense.
Et ce qui est extraordinaire, c'est quand même qu'ils ont perdu Nwambi, je vais arriver à le dire, dès la 10e minute du match.
Troisième.
Ils ont joué sans leur talonneur, qui est monstrueux, le talonneur. C'est vrai, c'est incroyable.
D'ailleurs, le pack Sudaf a été moins dominant qu'il l'a
sans
été
lui.
Lors des matchs.
Oui, mais quand même.
Notamment en mêlée,
t'as raison.
Cette Coupe du Monde sacre le meilleur groupe de 33 joueurs de la compétition. Ouais. Parce que, vous l'avez dit, aujourd'hui, il n'y avait pas Reinach, il n'y avait pas Libok, il y a Marx qui s'est pété. Ils ont changé des joueurs. Il faut rentrer des remplaçants dès le début de deuxième mi-temps. C'est le groupe le plus complet. Et on l'a bien vu pour la France. Il nous a manqué les finisseurs qui devaient nous faire gagner des matchs. Les années précédentes ne nous l'ont pas fait gagner. Alors que, ce groupe est quand même incroyable quand vous faites rentrer Quagga Smith.
Je crois qu'il y a quand même un manager incroyable.
Oui,
pour moi, il faut quand même dire qu'Erasmus.
Un duo, ça me fait penser à Villepreux-Crella, ça un peu, non
Un peu, sûrement, mais quand même, les choix forts qu'ils ont effectués, où ils ont pris des risques à chaque fois, mais ça a payé. Tu peux dire ce que tu veux, mais bon.
Denis, c'est pas des risques. Ils connaissent parfaitement le joueur et ils analysent vraiment bien l'adversaire et ils utilisent les joueurs en fonction de la stratégie qu'ils veulent mettre en place. Quant aux finisseurs en France, pour les Français, les finisseurs, ils n'ont pas très bien fini, ils étaient à l'infirmerie. Donc les meilleurs finisseurs de l'équipe de France, ils étaient à l'infirmerie. Compliqué de marquer, mais eux aujourd'hui. Ils ont utilisé les 33 joueurs et comme dit Erasmus, il n'y a personne qui est titulaire de son poste. Il faut toujours se gagner sa place et ils sont en concurrence et collectivement ils ont été très forts.
Non, mais Wilfried le disait bien, c'est vrai que tu changeais les joueurs, même en début de match, n'importe quand. Exactement. Le niveau ne change pas, voire des fois il augmente. Donc c'est là, leur force elle est là. Moi je suis beaucoup moins dithyrambique sur les coachs. Moi je pense que c'est une équipe qui a été quand même avantagée, aidée par l'arbitre sur certains matchs. Et qu'on n'aurait pas le même discours s'ils avaient été éliminés en quart et ça aurait pu être possible. C'est un peu facile de dire une fois qu'ils ont la coupe dans les mains, dire les mecs sont très forts.
Alors, juste pour vous décrire un peu ce qui se passe sur le terrain, il y a les deux présidents qui arrivent. Si, Emmanuel Macron qui est avec le président sud-africain, avec le maillot des box sur lui, évidemment. On a installé un immense podium au milieu du terrain de Saint-Denis avec une Coupe du Monde dessinée en filigrane. Là. Les All Blacks sont tous bras croisés dans les 22 mètres
les
à gauche.
Rouges.
Ouais, les yeux rouges, évidemment, les visages ternes. Et de l'autre côté, derrière eux, il y a les All Blacks, les Springboks qui n'arrêtent pas de se congratuler. Ils sont venus voir leur famille. Juste en bas qui sont là, là juste devant, on voit les femmes et les enfants qui sont juste devant nous en bas. On va avoir la remise de la médaille du deuxième, évidemment. On va d'abord l'arbitre, médaille pour les Néo-Zélandais, et ensuite la Coupe du Monde, la Coupe William Webelis sera remise. Il y a Bill Beaumont qui est là avec Emmanuel Macron. Le stade est quand même assez rempli, messieurs. Hein. Les gens sont restés.
Ouais,
hein,
c'est super. Hein.
Il est rempli au plus que 3 quarts.
Personne n'est parti là.
C'est un moment à vivre quand même, cette remise de la Coupe. Ça siffle
voilà.
Là.
Bah, il y a les arbitres qui sont.
Ah, monsieur Barnes qui se fait siffler.
Non, mais franchement, des fois.
Un mot sur l'arbitrage, messieurs, comment vous l'avez trouvé? C'est vrai que ça a sifflé lorsque Colissi n'a pas pris carton rouge alors que Kane l'avait pris.
Oui, mais c'est pas monsieur Barnes qui l'a pris la décision.
Non, c'est
le bunker.
C'est le bunker.
Donc je pense pas, le match il est fini là maintenant, il n'y a pas de scandale comme ça, siffler les arbitres. La carrière de monsieur Barnes qui finit ce soir, c'est comme hier, Ben Youngs sort du terrain. Bon, il y avait les Argentins et tout. Il est hué, ouais. Ben Youngs, quoi, la 129e sélection. Moi je suis outré quand j'entends ça, quoi, franchement.
Ouais,
on a plein la bouche des valeurs du rugby, des choses comme ça.
Mais on sait depuis 15 jours, les arbitres prennent cher quand même.
Bah ouais, mais alors, et sur les terrains amateurs, on va huer les arbitres. Il y en a qui va prendre quelque chose un jour et voilà. Je pense qu'avec ce qu'on met en avant sur le rugby, sur l'éducation du rugby, il y a des choses à revoir un petit peu.
T'énerve pas.
Non, mais bon.
Mais il a raison. Moi, je dis qu'il a raison.
Mais oui, mais bon.
Et il le dit avec le cœur. Et bah, c'est vrai que les valeurs du rugby au travers de ce peuple.
On en a toujours plein de ça. Les valeurs. À un moment, faut respecter Wayne Barnes. On aime ou on n'aime pas. Il a eu une superbe carrière.
Rappelons quand même qu'il nous a offert une victoire face au Black en 2007.
Hein. Et on avait vécu un bon moment en Marseille avec lui, entre La Rochelle et le Leinster. J'ai encore ton lève le bras, Wayne, en mémoire, là, sur la vidéo. C'était assez sympa. Voici les All Blacks. Messieurs qui vont avoir la médaille du perdant. Mais ce qu'on aurait vu les All Blacks il y a un mois et demi
perdre d'un point
au Stade de France
après avoir tapé les Irlandais, après avoir fait un retour au sommet, ils sont battus. C'est rare de voir une équipe de Nouvelle-Zélande battue dans une grande finale. C'est le cas aujourd'hui.
C'est la deuxième
95.
Fois. Voilà, contre les Sudaf aussi. Exactement.
Exactement, mais dans des conditions un peu particulières. Enfin, ils étaient tous malades le jour de la finale. Et que cette année-là, la Coupe du Monde devait revenir à l'Afrique du Sud. C'était écrit, c'était politique, évidemment.
Regardez, il passe à côté de la Coupe. Là, moi, je me rappelle Emmanuel Arinordo qui avait fait un bisou à la Coupe. À l'Eden Park qui était passé devant.
Vous avez battu d'un point cette année-là. Hein.
Pareil. Enfin,
C'est ça.
Voilà, il passe, il regarde même pas la coupe. Effectivement.
Voilà, c'est Emmanuel Macron, président de la République, qui remet les médailles autour du cou. Ils sont obligés de se baisser parce qu'ils sont beaucoup plus grands que le président de la République quand même. Hein. Les avant All Black, notamment les deuxièmes lignes. Voilà, il y en a certains qui sont venus avec leurs enfants sur le podium. Pour recevoir cette médaille et ensuite la Coupe du Monde. Le trophée William Webb-Ellis va être remis donc dans quelques instants à Siya Kolisi pour la deuxième fois après 2019, et cette victoire c'était au Japon donc face à l'Angleterre. On va aller faire un tour au Mexique, la Q1 est largement terminée. Jean-Luc, on est dans la Q2 maintenant.
Oui, absolument Christophe, on est depuis quelques minutes dans la Q2 et je peux te dire que les 5 pilotes éliminés, malheureusement il y a un pilote français d'Alpine, il s'agit d'Esteban Ocon qui a réalisé le 16e temps. Kevin Magnussen avec la Haas également est resté sur le carreau. C'est le cas aussi du Canadien Lance Stroll avec l'Aston Martin. Et puis, alors ça, c'est l'énorme surprise, Lando Norris avec la McLaren, tout comme l'Américain Logan Sargeant. On est parti, comme tu viens de le dire, dans la Q2. Et au terme de ces 15 minutes, eh bien, on va éliminer encore les 5 pilotes les moins rapides pour garder le top 10 et la bataille pour la pole.
Merci Jean-Luc, à tout à l'heure, retour ici au Stade de France. Alors pour les habitués, les fidèles de l'After Foot, sachez que l'After arrivera tout à l'heure à minuit. Vous pouvez d'ores et déjà le télécharger, les temps podcast, tout prêt, tout beau, prêt à être écouté. Je vous rappelle également que le RC Lens s'est imposé de quelle manière ce soir, en battant le FC Nantes 4-0. Wilfried, tu voulais ajouter?
Non, je regardais les stats, messieurs, et je parcourais un peu les stats. Donc en défense, ça a été du 86% pour les Blacks, 82% pour les Sudaf. Je regardais, il y a une stat qui m'interpellait un peu. Les Box ont pris 10 pénalités contre 5 seulement pour les Blacks, mais il y a une chose que je regardais, c'est les fautes de main. Et faute de main, il n'y en a eu que 4 pour les Sud-Africains. Il y en a eu 13 pour les Néo-Zélandais.
Donc,
à un moment, bon, le jeu appelle faute. Hein, peut-être qu'ils ont.
Oui, voilà, quand tu joues pas, tu ne joues pas neuf.
C'est pas faux,
Yann. Tu peux pas faire des en avant.
C'est pas faux parce que les box ont fait 209 plaquages. Et les Néo-Zélandais 93. Ouais. Donc effectivement que les Néo-Zélandais ont plus de ballons. Alors, et ça explique peut-être, ça explique sûrement les fautes de main néo-zélandais.
Ian Foster, le sélectionneur néo-zélandais qui vient de se voir remettre la médaille en chocolat, enfin la médaille d'argent de cette Coupe du Monde. On rappelle que c'était dernier match à la tête de la Nouvelle-Zélande, qui va récupérer un nouveau sélectionneur.
Oui, bon, mais c'est Todd Robinson.
Robertson.
Il faisait partie du staff de Steve Hansen. Hein, il y a un moment qu'il était là avec la Nouvelle-Zélande.
Il va tirer sa révérence. Il a porté le maillot des Blacks en revanche en tant que joueur. Hein, qui a été joueur.
Mais Scott Robertson qui va donner un nouveau souffle aux Néo-Zélandais. Et il faudra remplacer des hommes comme Whitelock, comme Aaron Smith. Avec une génération qui va s'en aller aussi chez les Blacks.
Messieurs, l'Afrique du Sud qui s'impose. L'Afrique du Sud faisait partie des grandissimes favoris, au même titre que la France, au même titre que l'Irlande, avant cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est la logique, c'est la meilleure équipe au monde qui est récompensée
quand tu gagnes,
évidemment, mais est-ce que pour toi, c'est la meilleure équipe au monde?
Moi, je dis...
La plus complète.
Je veux dire que je suis admiratif de leur parcours en Coupe du Monde. C'est assez étonnant, sachant qu'ils ont perdu quand même en poule contre l'Irlande. Ils avaient fait quand même un grand match devant et faute de buteur, ils avaient perdu.
11 points, oui.
Après, ils ont maîtrisé les Écossais. Et puis après, ben, même s'ils ont peu de chance contre nous, ils ont fait la différence en fin de match avec le banc. Ils l'ont fait encore contre l'Angleterre. Et en finale, ils ont fait preuve plus de maîtrise que les Blacks. Et c'est logique qu'ils soient champions du monde.
C'est logique, mais quand tu gagnes d'un point...
Tu gagnes d'un point, ça suffit.
Mais bon, la domination, elle est là. Sont les vainqueurs, mais il n'y a pas une marge non plus énorme, Jean-Claude, hein, pour
non, il
n'y
a pas une marge énorme, mais ils y ont cru tout le temps.
Voilà.
Moi, je pense que c'est une équipe qui est arrivée, jouer cette compétition, ils voulaient la gagner, ils l'ont gagnée parce qu'ils l'ont voulu, et ils y ont cru tout le temps. Quoi qu'il se passe, quel que soit le jeu qu'ils pratiquaient, et quelle que soit la stratégie qu'ils mettaient en place, ils étaient convaincus, ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient.
Ouais, donc, c'est vrai que d'un point de vue humain, ils avaient un supplément d'âme par rapport aux autres équipes. Je pensais plus ça que qu'ils sont meilleurs au niveau du jeu. L'Irlande a un jeu extraordinaire, la France aussi.
Ils étaient plus déterminés, tout simplement.
Voilà, plus déterminés. Ouais. Ils avaient
en
un supplément d'âme.
C'est un peu ça.
Et ça a payé. Et quand on parle du petit point, c'est rien. Mais c'est souvent avec ce mental-là
c'est
qu'on va le chercher,
aussi,
ce petit point.
Oui, absolument.
Ouais. Est-ce que cette quatrième étoile, est-ce que ce quatrième titre de champion du monde fait de l'Afrique du Sud la plus grande nation de l'histoire du rugby? On rappelle que les Blacks sont à 3, les Box désormais à 4. On sait qu'il y a une grosse rivalité, comme il peut y avoir entre la France et l'Angleterre pour la suprématie européenne. Mais aujourd'hui, mathématiquement, ils sont devant.
Ça va vite parce que un an et demi avant la Coupe du Monde 2019, j'étais au fond du saut. Ouais. Au fond du saut. Et c'est Rasmus qui arrive, qui les reprend. Ils sont champions du monde un an et demi après. Et derrière, ils rebondissent, ils sont à nouveau champions du monde.
La constance est plus chez les All Blacks finalement. Mais par contre, pour les grandes compétitions comme la Coupe du Monde, ben oui, les Sud-Afs sont devant.
Je ne sais pas si c'est la plus grande nation, ça l'est, puisqu'elle est première, elle a gagné 4 Coupes du Monde. Mais surtout, cette équipe-là, ces joueurs-là, ils jouent vraiment pour leur pays. Ils veulent démontrer, ils sont faits au fin fond de l'Afrique du Sud, là-bas, ils veulent démontrer qu'ils sont comme tout le monde. Ils ont le droit de gagner des titres, ils ont traversé des périodes très difficiles. Et ils nous montrent qu'ils sont aussi bons, si ce n'est que les Blacks, parce qu'on parle toujours des Blacks, on parle des Australiens qui ne sont plus là. Mais ils veulent exister et c'est le pays de l'Afrique du Sud qui veut exister. Et ils portent les couleurs vraiment de l'Afrique du Sud.
C'est le sport numéro 1, ils ont un peuple entier derrière eux.
Tu as raison, Jean-Claude, ça part de très loin.
Je pense que c'est
très loin.
Avec une équipe en plus aujourd'hui, alors les Springboks ont souvent et longtemps été une équipe composée exclusivement de blancs. Désormais, c'est une véritable équipe de couleurs, mais qui sait quoi.
C'est le seul vecteur peut-être qui réunit l'Afrique du Sud. Alors évidemment, il y a des disparités économiques, sociales là-bas, mais il joue pour ce qu'en Colissi en parle. C'est vraiment ce qu'il a dans le cœur et d'où il vient lui justement, qui lui étant jeune n'a parfois pas mangé à sa faim, c'est que le maillot Springboks, c'est quelque chose d'extrêmement important au pays.
Mais vous vous rappelez qu'à un moment on avait essayé d'imposer un nombre de joueurs blacks.
Il y a des quotas,
il y avait des quotas qui avaient été instaurés. Et ça avait un peu scandalisé à l'époque, certains avaient résisté. Aujourd'hui, c'est la preuve que ça a bien fonctionné quand tu vois des Mbonambi, des Nche, des Colissi qui sont parmi les meilleurs joueurs de cette équipe. Ça aussi c'est la réussite de l'Afrique du Sud.
Oui, non c'est... C'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. Il y a des blancs, mais il y a des noirs. Et ils sont arrivés à faire, je dirais, ce mariage quelque part.
Oui,
cette union, mais ce mariage quelque part qui fait que c'est un grand pays. C'est aujourd'hui le meilleur du monde. Et puis, on ne peut pas discuter.
Voilà. Même si ça reste, Yannick Brune nous l'avait expliqué quand il est entraîneur des Chars, ça reste une société violente et brutale là-bas. Mais ça va amener un peu de légèreté.
Je trouve que c'est une vraie réussite d'avoir réussi à mêler. C'était quand même un sport 100% blanc.
Oui,
c'était un sport. Là-bas, il y avait quand même un racisme.
95 a beaucoup fait pour ça.
J'ai joué en 89 là-bas, une tournée le reste du monde contre l'Afrique. Il y avait encore l'apartheid et je peux te dire, il y avait dans les tribunes, il n'y avait que des blancs.
Moi, quand j'ai joué là-bas, en 1971, les blacks, ils étaient tous parqués dans une tribune derrière les poteaux. Il y avait des grillages pour pas qu'ils puissent rentrer sur le terrain. Moi, cette image, je l'ai encore et aujourd'hui, quand je vois où ils sont, c'est grâce au rugby qu'ils sont là et c'est grâce aux titres qu'ils ont, grâce aux joueurs et grâce aux titres qu'ils gagnent. Je pense que c'est génial.
La pluie a refait son apparition sur Saint-Denis pour les pauvres familles devant là. Et évidemment, on distribue les dernières médailles aux Sud-Africains. Les All Blacks, respectueux, sont dans les 22 mètres, bras croisés pour regarder la liesse sud-africaine. On est sur les derniers joueurs là. Pollard qui se fait remettre la médaille.
Colissi qui va être deux fois champion du monde, capitaine.
Et incroyable.
Capitaine.
Ouais,
comme Richie Matko.
Comme Richie Matko, effectivement. Cécile Colby qui ne quitte plus son drapeau sud-africain sur les épaules. Et les derniers. Là, il y a les tauliers là, Vermeulen et de ses bêtes.
Et Vermeulen, le match que fait Vermeulen. Vermeulen fait un match extraordinaire.
Mais Vermeulen, pas titulaire en face de poule, mais c'était calculé
et pas remplaçant en face de poule
J'ai réfléchi à ça. Il peut pas le mettre par hasard en quart, en demi, en finale. C'était calculé. À 37 ans, ils avaient prévu de laisser tranquille un peu en poule. Et voici les derniers Sud-Africains qui s'avancent. Et la coupe William Wemelis qui attend Siya Kolisi qui est félicité par Bill Beaumont et par Emmanuel Macron. Siya Kolisi qui est attendu par tout son groupe, le staff, les joueurs, ils sont en train de sautiller d'impatience que le capitaine sud-africain soulève à nouveau cette Coupe du Monde. Il y a une étreinte avec Vermeulen, Bill Beaumont qui donne la coupe à Siya Kolisi et on attend Siya Kolisi qui arrive au milieu de ses joueurs et il soulève la coupe. L'Afrique du Sud, champion du monde 2023, quatrième titre pour les Sud-Africains après 95, après 2007, après 2019. L'Afrique du Sud, on le répète, seul sur le toit du monde de la planète rugby.
Avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a à l'identique de Nelson Mandela en 1995 a revêtu le maillot des Springboks. Il soulève à son tour ce trophée William Webb Ellis qui va donc repartir en Afrique du Sud pour 4 années supplémentaires. Fantastique équipe des Springboks, seule sur le toit du monde, donc avec ce quatrième titre remporté par l'Afrique du Sud, alors que les All Blacks quittent la pelouse désormais et vont regagner les vestiaires. Ils sont groggy, les Néo-Zélandais, ils n'ont pas l'habitude de
ça. Ça fait un petit peu Moscou 2018 pour les Bleus du foot, qui avaient pris une averse terrible sur la remise de la Coupe. Là, c'est pareil, il pleut beaucoup sur Saint-Denis. Et les Sud-Africains descendent du podium et vont s'offrir un tour d'honneur. Vont aller voir les leurs, ils sont champions du monde.
Très bien, il est 23h36, on revient dans un instant alors que la lumière s'éteint ici au Stade de France. Il va y avoir un petit spectacle et nous on continue évidemment jusqu'à minuit. On va débriefer cette Coupe du Monde, on va tirer le bilan de cette Coupe du Monde qui s'achève donc ce soir après 48 matchs. Et la victoire finale de l'Afrique du Sud, à tout de suite en direct du Stade de France.
RMC, l'After Rugby.
RMC,
l'After Rugby.
Christophe Cessieux.
Jusqu'à minuit, l'after rugby en direct du Stade de France avec Wilfried Templier, Denis Charvet, Yann Delec et Jean-Claude Trella qui se trouve au studio RMC Place de la Concorde pour ce studio et cette magnifique fanzone qui nous a accompagnés durant toute la Coupe du Monde. Le trophée William Webb Ellis qui a été remis à Silvia Colissier et la Coupe du Monde qui fait le tour du Stade de France. Il y a encore beaucoup de spectateurs. On a eu droit à un magnifique feu d'artifice il y a quelques instants. Et on va débriefer cette Coupe du Monde en général. On a parlé de la victoire de l'Afrique du Sud. On va maintenant tirer le bilan de cette Coupe du Monde. Un tout petit détour tout de même par le Mexique avec les essais qualificatifs du Grand Prix du même nom. J'en ai trois. C'est la fin de la Q2.
Absolument, Christophe. C'est terminé même en Q2. Et on sait quels sont les 5 pilotes éliminés. Il s'agit du Chinois Zhou qui termine 11e, donc pourtant à 8 dixièmes du meilleur temps réalisé par Lewis Hamilton dans les dernières secondes. On rappelle qu'on est qu'en Q2, hein, la bataille pour la pole c'est dans quelques minutes. Pierre Gasly malheureusement avec son Alpine n'a pas passé non plus la barre de la Q2, il est 12e. Il précède Nico Hülkenberg qui lui est 13e, Fernando Alonso avec Aston Martin en difficulté depuis quelques Grands Prix termine 14e et Yuki Tsunoda 15e. On va donc retrouver Hamilton, Verstappen, Russell, Ricciardo et c'est une énorme surprise, Daniel Ricciardo aux commandes de l'AlphaTauri 4e pour le moment, Piastri, Leclerc avec la Ferrari, Bottas, Perez, 8e, Albon et Carlos Sainz.
Merci Jean-Luc, à tout à l'heure pour la pole position donc de ce Grand Prix du Mexique. Retour ici au Stade de France, toujours avec toute la Dream Team. On va donc tirer le bilan de cette Coupe du Monde qui s'achève ce soir par le succès de l'Afrique du Sud. 48 matchs disputés, plus de je crois 333 essais, comment je vais les compter, on va en parler ce matin.
J'ai perdu le chiffre.
Est-ce que pour vous ça restera comme un grand cru cette Coupe du Monde? Jean-Claude, on va commencer avec toi qui en a connu quand même peut-être plus que nous, encore que Denis était présent lors de la première Coupe du Monde. Jean-Claude.
Je ne sais pas si ce sera un grand cru. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un engouement exceptionnel du peuple français, du monde du rugby, mais aussi du peuple français. Quand on voit ici à la fanzone qu'il y avait 30 000 personnes au début de la compétition, je dis que moi, tout cet engouement, et je souhaite de tout cœur que les écoles de rugby se remplissent, parce que tous les gens qui ont regardé cette Coupe du Monde, j'espère que plein de petits gamins voudront aller jouer à ce jeu. La deuxième chose que je parlerai d'un truc, c'est la défaite de l'équipe de France, le départ de l'équipe de France trop tôt dans cette compétition, et qui je trouve que c'est dommage, avec l'engouement qu'il y avait, c'est quand même un peu dommageable pour notre rugby.
C'est un gâchis incroyable parce qu'on il y avait de la marge pour même battre les Blacks ce soir. Non mais je veux dire, on pense que, je ne sais pas si on aurait gagné, mais en tout cas l'Angleterre on serait passé, puis en finale on voit que quand on voit la supériorité, quand on a joué les Sud-Africains, on peut avoir que des regrets.
Ouais, ça restera le grand couac de cette Coupe du Monde pour toi aussi, Yann. L'élimination précoce de l'équipe de France pour un point face au futur champion du monde qui s'impose d'un point encore en finale, quoi.
Ouais, c'est un des côtés négatifs de cette Coupe du Monde et c'est normal, mais il y a plein de côtés positifs. Je pense qu'il faut surtout retenir le positif. L'ambiance dans les stades étaient pleins, l'ambiance autour des fan zones, c'était génial, tout était en sécurité, c'était cool. Les gens, on les voyait sourire, ça transpirait les bonnes valeurs du rugby, on voyait les supporters de tous les camps s'offrir des bières, rigoler ensemble. C'est des images magnifiques. Et puis on a vu des matchs de ouf quand même, on a vu des matchs incroyables. Le Irlande-Nouvelle-Zélande fait partie du plus beau match que j'ai vu de ma vie.
C'est le plus aussi, Yann.
C'est le meilleur.
Il y a eu des matchs super comme Fidji, les Fidji, il y a la Fidji-Australie, le Portugal qui s'impose contre Fidji.
On
a
vu des trucs.
Irlande-Afrique du Sud, on a vu des matchs fantastiques, même le match d'ouverture c'était sympa. Donc voilà, faut retenir du bon. Après moi j'ai un peu des flops aussi, je suis un peu frustré de certaines choses. Alors d'abord effectivement de la sortie prématurée de l'équipe de France, et ça c'est peut-être un peu dû au tirage au sort des poules qui se fait vraiment trop tôt, et on a eu un dernier carré qui n'était pas à la hauteur. Pour moi dans cette Coupe du Monde il y a 4 équipes qui sont au-dessus de tout le monde, c'est France, Irlande et ces deux finalistes, et c'est vrai qu'on ne les retrouve pas en demi-finale et c'est dommage. Donc ça c'est un peu le côté négatif, je trouve. Après je trouve que sur l'arbitrage et TMO, il y a de l'incompréhension dans la globalité du tournoi, je parle. Je trouve qu'il y a de l'incompréhension, on n'a pas vu beaucoup de ralentis, c'était de l'incompréhension.
Et c'est
un peu bizarre, ça laisse un goût un peu bizarre, bon, en plus un peu amer parce qu'on est directement concerné avec l'équipe de France, mais je trouve qu'il y avait l'incompréhension des spectateurs, c'était pas assez clair pour moi. Et puis après, bon, c'est vrai qu'il y a eu des matchs aussi à 90 points. Bon, ben, ça, c'est toujours délicat.
C'est pour ça qu'il y aura un match de poule en moins avec une Coupe du Monde à 24.
Ouais, sera moins longue.
Avec des poules de 5. Donc, il y aura un match de haut niveau et 4 matchs.
Non, il y aura 3 voilà. matchs. On avait 4 matchs de poule, il n'y en aura plus que 3 maintenant.
Ah, de
c'est des poules de 4 maintenant.
Oui, c'est vrai,
et un 8e de finale en plus, par contre.
Ouais. Mais bon, ouais, je retiens quand même le positif. Hein. Même si j'ai dit à la fin, je retiens largement le positif et on s'est régalé pendant 2 mois.
Moi, je parle de gâchis parce que on était en France, qu'on rêvait de ce titre. Mais après, c'était une très belle Coupe du Monde. Hein.
Moi,
je pense qu'elle était aussi belle que celle du Japon. Hein.
Ouais, bien
il
n'y
a pas envie à celle du Japon.
Ah ouais,
On dit souvent qu'une Coupe du Monde décide un peu de l'orientation du jeu qu'on va voir dans les années qui viennent. Est-ce que vous avez ressorti, trouvé une orientation particulière dans cette Coupe du Monde?
Elle a sacré une équipe qui
basait
beaucoup de choses sur les fondamentaux, la défense, la conquête, le pragmatisme. Alors, c'est pas pour les chantres du beau jeu ou les amoureux du beau jeu.
Mais on sait souvent que les gens de World Rugby veulent aller vers un rugby plus spectaculaire.
Bah, attendez, on nous a dit il y a 2 ans, faut arrêter la dépossession, il faut jouer au ballon et au final, pas tant que ça. En fait.
Je suis d'accord.
Oui. On est d'accord là-dessus, il faut jouer. Enfin, quand le Portugal joue contre les Fidji, ils ont joué un rugby exceptionnel. Donc,
mais le rugby qui a gagné, Jean-Claude,
Le rugby qui se gagne avec la défense aujourd'hui.
Écoutez, moi je veux bien tout entendre. Mais autant chez les seniors, chez les grands qui jouent le rugby qu'on a vu aujourd'hui, ça me va très bien. Dans les écoles de rugby, ça me gênerait beaucoup.
Bien sûr.
Pour apprendre à jouer au rugby.
Mais l'exemple, il le regarde là.
Et voilà, l'exemple, il le regarde là. Et si je parle du Portugal, c'est parce que j'aimerais que les gamins qui ont regardé les matchs de rugby s'identifient comment.
Ça m'inspire.
Ça l'inspire parce que c'est des gamins, il faut qu'ils apprennent à jouer, il faut leur enseigner le rugby, il faut qu'ils prennent du plaisir, sinon ils s'en vont dans d'autres sports. Aujourd'hui le rugby, il n'est pas seul, il y a plein d'autres sports qui attirent les gamins et qui sont beaucoup plus intéressants. Le rugby, il faut se rentrer dans la gueule parce que ça fait partie du jeu, il y a du combat et
c'est clairement la victoire de la défense, c'est clairement la victoire de la défense et du défi physique.
Oui, évidemment. Bien sûr.
Et ça, c'est.
Il faut souhaiter qu'on ne regarde pas que dans les écoles de rugby, dans les clubs, dans les écoles de rugby, on ne regarde pas que ce qui se fait, même si c'est un titre de champion du monde, ils ont fait ce résultat, c'est génial. Moi, tout me va là. Mais il faut pas le transférer vers les jeunes. Ouais. Voilà, c'est tout. Moi, la perception, c'est celle-là.
Ouais. Je ne sais pas si on finira sur l'équipe de France, Christophe.
Ouais,
c'est juste la transition. Moi, j'ai adoré, messieurs, qu'on aille faire des matchs à Lille, à Marseille, à Lyon. On a eu un public extraordinaire, des ambiances extraordinaires autour des Bleus. Et pour,
alors qu'en quart, c'était un peu plus.
Ici, on avait moins l'ambiance comme ça. Hein.
Ouais,
et pour devancer et pour nous positionner un peu sur le débat d'équipe de France, je suis pas d'accord avec vous, mais il a manqué des choses à l'équipe de France. On les voit en demi-finale, moi je les voyais pas plus loin. Parce que ça fait des mois qu'il nous manque un petit truc à chaque fois. On était moins dominant sur le tournoi, on était moins dominant sur les matchs d'août, où on se disait à chaque fois, oui mais il y a un petit truc.
Il aurait fallu cette Coupe du Monde et lui en 2022 quoi. Finalement.
Peut-être, et on va en débattre après dans les minutes qui viennent. Mais l'équipe de France était en dessous de l'Afrique du Sud, championne du monde ce soir.
Alors on en parle dans un instant, toujours en direct du Stade de France avec Jean-Claude Strella, Yann Deleg, Denis Charvet et Wilfried Templier. Le bilan de cette Coupe du Monde, on le tire après. Donc la victoire des Springboks qui s'imposent pour la 4e fois en Coupe du Monde sur la plus petite démarche. 12 à 11 face à la Nouvelle-Zélande. Ils n'ont pas marqué d'essai à l'indifférence des Blacks. Dans un instant, on s'intéresse à l'avenir de l'équipe de France, évidemment, qui nous tient toujours à cœur. A tout de suite sur RMC, on est dans un instant et on ira également faire un petit tour au Mexique pour le dénouement de la qualification du Grand Prix de Mexique. A tout de suite.
RMC, l'After Rugby. Christophe Cessieux.
L'After Rugby jusqu'à minuit après la fin de cette Coupe du Monde qui va donc repartir pour 4 années supplémentaires en Afrique du Sud jusqu'à la prochaine édition qui aura lieu dans 4 ans en Australie. Voilà l'hémisphère sud évidemment qui continue de dominer la planète rugby avec un 9e titre en 10 éditions. C'est dire quand même si cette domination est importante. On est toujours avec Jean-Claude Crella et Yann Delegue en direct de notre studio RMC Place de la Concorde avec Denis qui commence à bailler.
Ouais, ça non, pas.
Non, t'es pas.
Il est nostalgique déjà, Denis.
Ouais, il est déjà dans le top 14, il est déjà demain. Quoi.
Non, mais c'était bien, c'est sympa. Après, on n'était pas aussi survolté que si ça avait été la France,
bien évidemment. Sûr. Évidemment, ça aurait été le grand regret de cette Coupe du Monde, mais on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, on l'a déjà analysé, on va plutôt se pencher sur l'avenir. Déjà, il y a cette petite polémique en train de naître, et je vais m'adresser à l'ancien sélectionneur que tu es, Jean-Claude. Toi aussi, tu as connu la défaite, bon, c'était en finale, en 99, Fabien l'a connu en quart de finale, ça fait 15 jours, il ne s'est pas encore exprimé. Est-ce que c'est de son devoir de venir aujourd'hui s'exprimer devant les médias, devant les fans du 15 de France, de venir dire, expliquer son ressenti et peut-être donner des explications à cette défaite? Est-ce que tu penses qu'il est temps ou qu'il doit encore patienter?
Je pense qu'il faut qu'ils fassent le bilan, de ce qui s'est passé, autant sur le plan physique que sur le plan du jeu, sur le plan des joueurs. Moi, je me pose une grande question. Comment se fait-il qu'on a eu autant de blessés, quoi ? C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure, les finisseurs, ils étaient à l'infirmerie, donc c'était plus compliqué. Après, qu'ils viennent présenter le bilan... à tout le peuple du rugby, je pense que ce serait tout à fait normal. Maintenant, il y a une nouvelle gouvernance, il va se passer plein d'autres choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Je ne connais pas, moi, personnellement, le fonctionnement qu'ils vont mettre en place, puisqu'il y a un nouveau responsable du haut niveau qui s'appelle Jean-Marc Lhermé, il y a un nouveau président. Moi je me pose, j'attends et je serais bien content d'entendre les réponses de ce qui va se passer demain autour du 15 de France. Si on doit réduire le fonctionnement, le budget de l'équipe de France, ce serait dommageable pour cette équipe-là, mais pour toutes les autres équipes de France, parce qu'aujourd'hui, bon, même si elle a perdu, il y a l'équipe de France féminine qui est en train de faire un tournoi en Australie. Moi, tout ça, c'est les moyens. Il y a les moyens financiers, il y a les moyens sportifs. Quelle négociation on va avoir avec la Ligue de rugby? Est-ce qu'on aura toujours 33 joueurs ou 45 joueurs pour préparer les matchs? Toutes ces questions, il faudra que Fabien vienne y répondre. Mais va passer par des négociations importantes. Quand même.
Je ne suis pas sûr que Fabien fasse un retour sur la Coupe du Monde qu'on vient de vivre. Autant je pense qu'il va parler effectivement de l'après, de ses ambitions pour le prochain tournoi.
Son devoir de sélectionneur à qui on a donné quand même carte blanche, des moyens incroyables de venir quand même. Alors il y a eu la conférence de presse après la défaite en quart de finale, mais vous n'avez pas envie de l'entendre aujourd'hui?
Ouais, mais en même temps, tu veux qu'il nous explique quoi? Enfin, il n'y a pas grand chose à expliquer.
Toute la presse a plein de questions à poser à Fabien Galtier en bilan de cette Coupe du Monde en fait. Donc je pense qu'on ne le reverra pas avant le début du tournoi. Il l'avait fait après le Grand Chelem, hein. Il avait débriefé ça. Donc,
mais après le Grand Chelem, c'était avant la Coupe du Monde. Il y avait quand même. La mission n'était pas terminée. La mission, c'était la finale de la Coupe du Monde qu'on n'est pas arrivé à avoir. Mais...
Oui. Oui, mais c'est bien de revenir un peu sur cette Coupe du Monde, sur les choix. Mais après, ça va être un moment, ça va être trop tard, hein, parce que revenir sur le match d'Afrique du Sud, les choix, le banc, un truc comme ça.
Non, mais il fallait le faire, je pense. Sur le bilan global, Jean-Claude parlait de la préparation physique.
Oui.
On a blessé quand même pas mal de joueurs. On a été prêts pour le match ouverture, mais pas pour le quart de finale. Il y a quand même.
On a été trop prêts. Oui. C'est des questions qu'il faut.
Ah oui.
On attend des réponses, effectivement, mais je pense que. C'est son devoir, tu le dis Christophe, je pense qu'il a quand même un devoir de venir devant la presse, mais je pense que, je suis pas comme vous, je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il va le faire,
Je souhaite qu'il le fasse.
Je pense qu'il va le faire, oui, il n'y a pas de raison.
Je pense qu'il va parler de l'avenir, qu'effectivement il va faire un petit aparté sur la Coupe du Monde qu'on vient de vivre, mais que ça sera plutôt très rapide et qu'il va dire on se penche sur l'après, parce que c'est l'après qui est important, il me semble.
Oui, mais on peut lui en parler, il y en a. On peut dire alors, les
joueurs, c'est même le rôle de journaliste.
Est-ce qu'il y a des joueurs qui, sur un cycle de 4 ans, pourront peut-être ne pas repartir avec cette équipe de France pour 30 ans? Voilà, il y a des questions qui se posent.
Il y a tous les jeunes moins de 20 ans qui ont été champions du monde. Quels sont ceux qui vont...
Oui, mais ça, c'est l'avenir, voilà, c'est ça.
C'est tout ça, mais c'est tout ça qu'il a à venir. Si on veut préparer la prochaine Coupe du Monde, il faut. On n'a pas gagné celle-ci alors qu'on pensait tous qu'on la gagnerait. Je crois que c'est déjà demain, quoi. Les 4 ans, c'est déjà demain. Quoi. Ah, oui, donc, il n'y a pas de temps à perdre.
Hein. Exactement, pas de temps à perdre parce qu'il y a ce tournoi à préparer. Le premier match, on le rappelle, ce sera à Marseille face à l'Irlande.
Exactement.
Hein. Les deux grands blessés de cette Coupe du Monde qui vont s'affronter.
Ah oui, les deux têtes malades là.
Au Vélodrome. Donc
parce que les Irlandais, nous on avait les. Hein, mais les Irlandais, eux aussi, c'était la nuit. Pour eux, elle était pour elle.
Parce que la génération derrière est peut-être un peu moins talentueuse.
Ça célébrait Sexton, justement. Et c'est vrai que eux, ça a été dur.
Messieurs, je vais vous remercier dans un instant. On va juste aller faire un dernier tour au Mexique parce que c'est la fin de la Q3, donc on va connaître la pole position pour le Grand Prix du Mexique de Formule 1 dans un instant, Jean-Luc.
Eh oui, dans un instant, effectivement, Christophe, pour le moment, c'est Charles Leclerc qui est au commandement en ayant réalisé un chrono d'une 1766. Ça veut dire que Charles réitérerait la pole qu'il avait signée à Austin la semaine dernière. Il est devant son équipier Carlos Sainz. Et j'ai regardé, hein, la dernière première ligne complète des Ferrari font monter à Monaco en 2022. Donc ça remonterait à pas mal de temps. Mais attention à Verstappen. Verstappen qui vient de signer un excellent chrono dans le deuxième secteur maintenant. Et non, Verstappen au global. Il améliore son chrono, mais il reste troisième à 97 millièmes seulement de Charles Leclerc. Leclerc n'est pas parvenu à améliorer, mais en revanche... il est peut-être en capacité de faire un tour supplémentaire, je regarde. On a également George Russell avec la Mercedes, qui lui est pour le moment 7e en amélioration dans le deuxième secteur. C'est le cas également de Lewis Hamilton. Il faut savoir que les deux Mercedes sont actuellement 7e et 8e, respectivement pour Russell et Hamilton. Bottas est 9e et Zhou restera a priori 10e et dernier. J'aperçois maintenant, on est dans la dernière seconde. Voilà, il en a terminé Russell, il restera au 7e rang. Lewis Hamilton passe maintenant la ligne, il grimpe au 6e rang et je peux confirmer la pole position de Charles Leclerc, superbe pole position, la 22e de sa carrière de pilote de Formule 1. Ça le met exactement au niveau de Fernando Alonso, deuxième pole position consécutive pour Charles, 4e de la saison 2023. Et bien la première ligne sur la grille de départ de ce Grand Prix de Mexico sera entièrement rouge, deuxième ligne avec Verstappen et l'étonnant Daniel Ricciardo avec l'AlphaTauri, troisième ligne avec Sergio Pérez, le régional de l'étape, le Mexicain Lewis Hamilton. Quatrième ligne, Piastri, le jeune pilote australien de McLaren avec Russell à ses côtés. Et puis Bottas et Zhou, je rappelle que Pierre Gasly est 11e et Esteban Ocon 16e.
Merci Jean-Luc.
Jean-Luc. Je vais partir il y a 5 minutes, merci.
Tu as tout, Denis, tu as tout.
Fais plus long la prochaine fois. Regarde-moi, quel ronchis. Il est minuit, tu crois que je vais faire quoi maintenant?
Denis, c'est le moment des
câlins. Tu vas regarder le Grand Prix demain, tu vas regarder.
C'est le moment des câlins, c'est la fin de la Coupe du Monde. On a passé un bon mois et demi ensemble quand même.
Super.
On s'est régalé. Bon, la France n'est pas championne du monde, mais on aura vécu une belle compétition. Avec vous, Yann, Jean-Claude, Denis évidemment.
Merci messieurs.
Julien Landry,
merci.
Carré, Bruno Fontaine.
Merci, salut Yann, salut Jean-Claude.
Merci à tous.
Il paraît que vous enflammez la fan zone après Jean-Claude et Yann.
On va l'enfermer là. Vous allez le fermer parce qu'avec ceux qui tombent,
Merci les garçons.
Merci,
merci beaucoup à vous tous.
Bonne nuit.
À très bientôt. Bonne nuit. Et vive la prochaine Coupe. Au revoir Denis Charvet. Il s'est barré déjà. Denis, il est terrible.
Quel solitaire.
Merci à tous. Il est minuit 2. Dans un instant, l'After Foot. Demain, top 14. Wilfried, tu seras sur les terrains, évidemment.
Non. Attends, palier de décompression avant les
débuts. Moi, je serai à l'antenne demain pour. Aviron Bayonnais, Stade Français.
Par contre, on prépare entre les poteaux.
Et on va poser des questions à l'entraîneur du Stade Français. Il aura peut-être des choses à nous dire.
Laurent Labitte.
Il va être obligé de parler.
Il commence apparemment 1er novembre.
D'accord.
Encore, voilà.
Merci à tous. Voilà, c'est donc la fin de cette Coupe du Monde. L'Afrique du Sud est sacrée championne du monde pour la 4e fois de son histoire. Les All Blacks s'inclinent d'un tout petit point, 12 à 11. Bonne fin de soirée et à très bientôt sur RMC.
RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde de rugby 2023.